Intervention. Il y avait un petit accent du sud, mais c'est ce qu'on a compris.
Donc, pour dire qu'on ne doit pas désespérer de la conversion des gens pour qui l'on prie, parce que Dieu a un plan pour chacun. Un plan pour chacun, puisque la preuve, là, c'est cet homme, ce n'est pas sa sœur qui s'est convertie, enfin, tout du moins pour le moment, mais c'est lui qui, au travers de la maladie, du problème sérieux de sa sœur qui s'est convertie. Donc Dieu utilise tous les moyens possibles. Si ce n'est pas des problèmes pour notre propre vie, ça va être pour la vie d'un proche, ça va être une multitude de choses, mais qui vont faire... si le cœur est disposé, si la personne doit se convertir, elle se convertira fatalement. Dieu fera tout pour qu'elle se convertisse.
Amen, amen. Oui.
Moi, ce qui m'a touchée, ce qui m'a touchée en fait, c'est que il s'est accroché à la toute petite chose que Dieu lui avait dit après avoir prié, parce que Dieu lui a dit je vais la garder. Et du coup, en fait, c'est cette espérance-là dans cette petite chose-là qui lui a permis de tenir, parce que quand les médecins ils sont venus avec un pronostic assez catastrophique pour lui annoncer que c'était une grosse tumeur, que ça allait être urgent et tout. En fait, bah, il avait l'assurance que Dieu allait quand même la garder. Et du coup, il s'est accroché à cette promesse-là. Et c'est quand les médecins sont venus pour lui dire que c'était compliqué, lui, il a dit qu'il avait gardé les paroles de Dieu et s'en rappelait et tout. Et du coup, bah, ça me fait penser que bah, c'est important parfois de se rappeler de ce que Dieu a dit, même quand ça semble une petite parole, parce que c'est en s'accrochant à ça qu'on va faire face à certaines situations.
Amen, amen.
C'est bon. Moi, j'ai aussi, enfin, ce qui m'a aussi frappé, c'est, il insiste sur le fait que, ça, bon, lui, il n'était pas converti, que quand il a soumis le problème à sa femme en a référé un peu aux assemblées pour qu'il puisse prier sur par rapport à ce sujet-là, et il le dit à plusieurs reprises. Donc moi, je me suis dit, c'est je pense que c'est quelque chose qui l'a touché, le fait que les bien-aimés qui ne le connaissaient pas forcément le soutiennent dans la prière par rapport à cette situation. Et moi, ça m'interpelle du fait que parfois, on est confronté à certaines situations où on peut pleurer dans notre coin ou se battre tout seul. Mais le fait d'avoir le soutien aussi des frères et sœurs permet d'aider l'entraide aussi et le soutien des frères et sœurs est fortifiant pour la personne qui traverse les difficultés. Là, on voit qu'il a été touché. Pourtant, il connaissait pas forcément, il n'était pas chrétien, il connaissait pas forcément les personnes, mais il le répète plusieurs fois que les gens ont prié pour lui, pour sa sœur, et on voit que c'est quelque chose qui l'a touché, quoi.
Amen, amen. C'est la vérité, c'est quelque chose qui touche. Oui, donc je vais passer la parole de Samuel après, mais je rebondis sur ce que tu dis. Parfois, il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui on a parlé du Seigneur, et parfois, ils seront peut-être même plus touchés lorsque on prend la peine de prier pour la personne, de dire à la personne, bon, tu crois peut-être pas en Dieu, mais moi, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur se révèle à toi, et si, puisqu'il est tout-puissant, il peut même agir dans ta situation. Et ça, ce sont des choses qui marque les personnes, même si la personne ne veut pas de Dieu. Mais il y a quand même l'orgueil de l'homme qui va dire, mais pourquoi lui, il va prier pour moi alors que, voilà, on se connaît comme ça, on est juste collègues, mais pourquoi il prend cette peine-là? Et ce sont des choses qui peuvent amener une personne à réfléchir. Et je pense que sa sœur et même lui-même ont été touchés, comme Nelisha dit, par le fait que, bon, sa femme et les chrétiens se sont mis à prier pour ça, voilà, de manière vraiment désintéressée. Souvent, on fait des choses en voulant obtenir quelque chose, mais là, on se dit, bon, on va prier pour que Dieu se glorifie, que Dieu agisse. Et parfois, nous sommes bloqués devant des situations parce qu'on veut agir peut-être physiquement, charnellement, alors qu'on peut prier pour la personne, dire à la personne, bon, je vais prier pour toi, je vais prier pour que le Seigneur se révèle à toi, je vais prier pour que le Seigneur t'aide, je vais prier, voilà. Après, Dieu... il fait comme il veut. On va revenir là-dessus après. Oui, Samuel.
Moi, c'est sur sa conclusion, en fait, où il a insisté sur le fait que, En tant que chrétien, on est appelé à passer par les difficultés. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est là où Dieu nous attend et je dirais là où on peut être, on s'accroche le plus à Dieu, là où on se rapproche le plus de lui, là où on crie à lui vraiment d'un cœur sincère, c'est quand on est au fond du trou, quoi, ou face à une situation où tout semble impossible, face à la maladie, face à des situations très compliquées. Et c'est là où Dieu nous fait grandir. Et c'est là où aussi Dieu fait grandir aussi l'Église. C'est-à-dire même dans ce témoignage, c'est pas juste un témoignage pour lui, c'est aussi le travail de la prière de l'ensemble des personnes, quoi, qui nous encourage encore à porter les uns et les autres dans la prière suivant les difficultés qu'on traverse. C'est pas juste la personne qui subit la maladie, c'est tout le corps est atteint, quoi. Et quand un frère et une sœur est touché, c'est nous-mêmes aussi qui sommes touchés, et bah, que le Seigneur encore se serve de ces choses pour nous faire grandir.
Amen, amen. Autre intervention. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai noté. Donc, un point. Donc, le premier, il dit au début, tout allait bien. Tout allait bien, il voyageait, il faisait ce qu'il voulait faire, il avait l'argent, il travaillait, la vie était belle. Et c'est ça, c'est l'aperçu du monde, de l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Tout va bien jusqu'au jour où, eh ben, finalement, il va se rendre compte que ce n'est pas ce qui fait son aisance matérielle qui lui donne le bonheur. Voilà, il avait peut-être tout, mais voilà qu'il avait une mauvaise nouvelle autour de lui. Donc, la mauvaise nouvelle de sa sœur fait que ça a enlevé même le plaisir que lui pouvait avoir de vivre sa vie tranquillement. C'est ça. Tout va bien jusqu'au jour où. Et ce sont des choses que, d'abord, à cause du péché qui est sur la terre, dans le monde, qui nous rappellent que ce monde, eh ben, ce n'est pas le paradis, il passera. Et de temps en temps, il y a des clins d'œil qui arrivent. Il y a des épreuves, il y a la maladie, il y a des situations où on doit s'humilier devant Dieu, on doit combattre aussi. Voilà, donc Dieu permet toutes ces situations-là pour nous réveiller. Et comme il a dit, en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre des difficultés, mais il dit, la différence, c'est que nous vivons ces difficultés avec le Seigneur. Et ça, c'est beau. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, effectivement, c'est beau. On n'est plus seul. On se rappelle des amis de Daniel qui ont été mis dans la fournaise ardente. Et le roi Nabucodonosor vient et il regarde. Il dit, mais n'avons-nous pas mis 3 hommes? Il dit, oui, maître, nous avons mis 3 hommes. Il dit, mais regardez, il y a un qui est comme un ange qui est avec eux. Et c'est ça que le Seigneur fait. On vit dans des difficultés. Il y a 2 options. Soit le Seigneur enlève la difficulté, ou alors le Seigneur laisse la difficulté, mais il est avec nous. Il nous porte. Ceux qui sont à l'extérieur regardent, ils ont l'impression que nous, on souffre, mais toi-même qui es dans les problèmes, tu es tranquille. Ils se disent, mais tu es inconscient, mais tu es fou, mais regarde la situation, sois responsable, mais toi qui es dans les problèmes, tu es avec le Seigneur te porte. C'est cela. Ça nous rappelle que même si on vit des difficultés, eh ben, nous ne sommes pas seuls dans ces difficultés. Jusqu'à la croix, il y a eu 2 brigands, mais le Seigneur a été jusqu'à la croix pour rappeler aux brigands que même à la mort, eh ben, vous n'êtes pas seuls. Je suis là avec vous. C'est ça. C'est merveilleux. Jusqu'à la croix, le Seigneur dit, je suis là avec vous. Malheureusement, il y en a un qui a accepté et l'autre a refusé. Voilà. C'est pour nous dire que si le Seigneur a pu aller faire sa mission jusqu'à la croix, c'est que dans nos vies aussi, le Seigneur est présent. On a l'impression d'être seul. On crie, on pleure. Mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Le Seigneur a ses raisons. Il a ses raisons, c'est sûr. Et l'une des raisons, c'est comme Samuel a dit, c'est pour nous faire grandir. Il dit qu'il allait à l'église pour faire plaisir à sa femme, peut-être pour se donner bonne conscience. Il voyait les gens prier. Il faisait comme les gens, il priait comme les gens, mais il n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu va faire ça aussi avec nous. Il y aura un moment où Dieu va nous mettre devant un choix. Comme Josué a dit, Josué 24:15, « Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, on peut venir à l'assemblée, venir jouer à l'église, entre guillemets, mais il y aura un moment où Dieu va faire la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est une question de choix personnel. Et c'est là aussi qu'on pourra voir, en réalité, telle personne, je pensais que réellement elle était de Dieu, mais en réalité elle ne l'était pas. Devant des situations, comme je pense qu'on a déjà parlé de ça une fois, dans la vie d'un homme ou d'une femme, de manière générale, avec Dieu, il y a ce qu'on appelle des moments cruciaux. C'est dans ces moments cruciaux-là qu'on va voir si on a fait le choix de Dieu ou pas. Il y aura des moments cruciaux dans notre vie. À ce moment-là, il y a le compromis qui est là. La facilité te dit, bon, fais semblant, regarde, c'est la famille. Tu ne veux pas te mettre tout le monde à dos. Mais de l'autre côté, il y a l'Esprit de Dieu qui te dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et là, il y a un dilemme dans la tête, il y a un conflit. Mais puisqu'on est de Dieu, comme Asaph a dit, hein, il a dit, j'ai voulu parler comme eux parce que je vois que les méchants, eh ben, ils trichent, mais ils vivent, ils sont heureux, ils avancent, ils prospèrent. Il dit, bon, ben, j'ai voulu tricher, j'ai voulu aussi faire comme eux. Mais lorsque j'ai voulu faire ça, l'Esprit m'a dit, non, tu n'es pas de cette race-là, tu es différent. Dieu permet cela aussi pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Et là, Dieu a permis ça pour qu'il puisse se rendre compte qu'en réalité, eh ben, c'était juste un sympathisant. Et que cette situation était là pour l'amener à prendre position. Et ça, ça nous ramène encore à un autre point. S'il n'y a toujours pas d'intervention, je continue. Un autre point pour nous dire que, oui, il y a... Il faut lever la main, s'il vous plaît.
Allô? Oui. Par rapport à la guérison, ça nous donne aussi, cette guérison nous donne une façon d'aborder le sujet de concernant les prières pour la guérison, parce que on voit bien que cet homme, cette dame n'était pas chrétienne. Donc ça va nous permettre de savoir comment aborder le sujet pour les guérisons, parce que ce jeune homme, quand il est rentré chez lui, il était abattu et le Saint-Esprit lui a parlé et il s'est accroché à ce que le Saint-Esprit lui a dit. Souvent, automatiquement, je parle... religieusement, des fois, dès qu'on a un sujet de prière de quelqu'un qui est malade, on dit, bon, ben, on va prier pour d'abord pour sa conversion. Mais là, on voit bien, la personne a reçu que Dieu lui a dit qu'il va garder la personne. Et Dieu ne lui a même pas parlé que je veux convertir. La personne n'est même pas, elle s'est pas convertie. Et on voit bien dans la Bible, Jésus, la foule qui veut la femme, par exemple, syrophénicienne, qui, elle n'était pas juive, mais Jésus l'a guérie. Jésus a guéri la foule qui n'était même pas juive, et certaines personnes qui n'étaient pas juives. Et la Bible dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en envoyant son fils Jésus dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc Dieu montre bien que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu sauver l'humanité, quoi. Voilà.
Ok. Par rapport à ce que tu as dit, il y a deux choses. Donc, il n'y a pas de méthode. Bon, nous, généralement, ce qu'on fait, en tout cas moi, quand on prie pour une personne qui n'est pas convertie, nous, on prie pour la conversion de la personne. Même si la personne est malade, on prie pour que Dieu fasse sa volonté. Mais notre désir à nous, c'est la conversion. Parce que le Seigneur dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde, d'être en bonne santé, si finalement c'est pour aller en enfer, ce serait du gâchis. Donc, mais il n'y a pas de méthode. Dieu, comme lui, il a prié. Lui, il n'était pas véritablement chrétien. Il a prié et Dieu a donné une parole pour le rassurer, pour le fortifier, parce que Dieu fait comme il veut et Dieu a tenu aussi sa parole. Mais c'est là que je rebondis maintenant sur un point que j'ai noté, c'est que souvent, lorsque nous vivons des situations, nous les personnalisons. C'est-à-dire quoi ? Je vis, je suis malade, j'aurais tendance à me plaindre. Seigneur, mais pourquoi je suis malade ? Seigneur, regarde, je n'ai pas péché. Seigneur, regarde, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais Seigneur, et parfois ça nous amène même à murmurer même contre Dieu. Ça nous amène même à dire des paroles mauvaises. On se rappelle de l'histoire de Job, chapitre 1, verset 12, on dit que dans tout ce que Job a vécu, il ne pécha point contre Dieu et il n'imputa rien de mal à Dieu. Donc il n'a pas dit dans cette situation, Dieu c'est à cause de toi. Non, il a souffert, mais voilà, même si on n'a pas tout compris, c'est pour nous dire que Dieu, quand j'ai dit ne personnalisons pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut permettre que moi je souffre, mais pour se révéler à mon frère. C'est bizarre, c'est le calcul de Dieu. C'est le calcul de Dieu. Pourquoi Dieu a permis que Job souffre? Job était intègre. Dieu a permis cela pour montrer à Satan qu'il y a des gens qui peuvent le servir de manière désintéressée, qu'il aime de tout leur cœur. Donc Job était un enjeu pour Dieu, entre Dieu et Satan sans le savoir. C'est pour nous dire que parfois, nous aussi, on peut vivre des situations qui sont difficiles dans nos familles, qui nous font souffrir nous, mais Dieu peut se servir de cette situation-là pour parler à une autre personne autour de nous. Il peut se servir de mon épreuve pour bénir une autre personne autour de moi. On se rappelle, Étienne, lorsque je lis ce texte-là, je suis toujours dépassé, je me dis, mais il est lapidé à coups de pierre. Et il prie, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et il est écrit au verset, ça c'est au chapitre 8, au chapitre 9, il est écrit, Saul qui respira encore à la mort d'Étienne, lui qui était là, qui envoyait les gens tuer, eh ben, je pense que cette prière-là d'Étienne a été la porte que Dieu a commencé à utiliser pour toucher le cœur de Saul de Tarse, qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre Paul. Mais pour cela, il a fallu qu'Étienne, bien aimé, lapidation, c'est une mort atroce, c'est difficile. Mais Dieu a permis ça pour accomplir son plan. C'est pour nous dire, ne personnalisons pas. Joseph a souffert et finalement, il dit à ses frères, le mal que vous m'avez fait souffrir, j'ai été loin de ma famille, j'ai été privé des miens, je me suis retrouvé vendu, en prison, injustement accusé, mais Dieu a permis tout ça pour vous sauver, vous. C'est ça. Parfois, Dieu peut faire quelque chose, comme on l'a vu, eh ben, c'est la sœur qui a été malade, qui s'est même guérie, mais lui-même il dit, eh ben, je bénis Dieu parce que cette maladie a permis ma conversion à moi. Donc Dieu, voilà, ce sont ses calculs, il fait comme il veut. Quelqu'un peut souffrir à gauche, mais à droite, c'est l'autre qui est béni. Parce qu'il fait. Mais si on personnalise les choses, on sera malheureux. On dira, mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Aujourd'hui, la réponse est, pourquoi moi? C'est parce que Dieu veut bénir tous ses enfants. Il veut aussi te bénir, toi aussi. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons la Bible, les histoires de la Bible que nous avons. Il y a des gens qui ont vécu des choses, qui ont souffert, quand on lit l'histoire d'Anne, quand on lit l'histoire d'Esther, quand on lit l'histoire de Néhémie, mais quand on lit de Daniel, de Paul en prison, Silas, mais quand on lit toutes ces histoires, eux qui ont souffert, eh bien aujourd'hui, ils servent pour nous de témoignage, ça nous encourage, on se dit, ah, Seigneur, si tel a pu vivre ça, et qu'il a gardé la foi, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc nous aussi, eh bien, c'est un encouragement pour nous. Et Dieu fait les choses comme ça. Je vais continuer, je laisse... Oui.
Bah moi, en fait, ce que j'ai compris dans les deux témoignages, c'est que dès que dans les problèmes, il faut jamais avoir peur de demander à Dieu de l'aide.
Amen, amen. Mais comment on demande à Dieu de l'aide?
En priant.
Hein?
En priant.
Amen, amen. C'est la vérité. Donc voilà, la prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Comme on a dit vendredi dernier, nous avons des réalités visibles que nous avons autour de nous, mais c'est dans la prière que nous entrons dans l'invisible avec Dieu. C'est dans la prière, il dit, il a prié, il s'est mis par terre, il s'est humilié, il s'est assis par terre. Vous voyez un costaud comme lui, là, Marseille, ça se voit que c'est un fort caractère, mais il s'est mis par terre, quoi. Il s'est mis par terre, il a prié, et quand on prie, prier c'est parler à Dieu. Et quand on parle, la personne aussi nous répond. Et c'est dans la prière que Dieu lui répond, lui dit, écoute, ta sœur ne mourra pas, je vais la garder. C'est ça. Et nous aussi, plutôt que de commencer à nous plaindre, à accuser Dieu, fléchissons les genoux et prions. Prions. Et là, nous entrons dans les réalités invisible, spirituel, ou même si la situation te dit c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Et il y a une observation qu'on voit, je pense qu'on en a un peu parlé, c'est la question pour dire, mais est-ce que les miracles, finalement, est-ce que ça produit la foi ou pas ? Question, est-ce que les miracles produisent la foi ? Jonathan ?
Moi, je pense que la réponse, clairement, c'est non. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. La foi produit les miracles. Bon, j'ai toujours l'exemple des 10 lépreux. Il n'y en a que un qui... Dans certains cas, il y a des gens que ça va interpeller, mais... Bon, Dieu est souverain, mais on a beaucoup de cas dans la Bible et même des témoignages. Voilà, donc celui-là en est l'exemple. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la suite, mais quand il parle, sa sœur n'est toujours pas convertie. Donc, moi, je connais des gens qui ont été guéris, et puis aujourd'hui, ils ne sont pas avec le Seigneur. Donc, moi, je dirais que dans la plupart des cas, ce n'est pas le miracle qui produit la foi, mais ça peut quand même être, disons, l'étincelle qui réveille quelque chose, quoi.
Oui, donc moi non plus, je pense pas que la foi, que les miracles amènent la foi. On a l'exemple dans l'homme riche et Lazare, quand il demande que Lazare ressuscite pour aller voir ses frères. Abraham répond qu'ils ont la parole de Dieu, ils ont la loi, les prophètes. Donc c'est pas un mort qui va ressusciter des morts qui va leur amener les amener à la foi. Mais par contre, ça fortifie nous qui sommes chrétiens, quand on voit la main de Dieu agir, ça nous fait du bien, ça nous fortifie, quoi.
Amen. Il y a une intervention derrière.
Après, enfin, moi, je pense que ça dépend de la situation. Enfin, je pense à l'exemple où Jésus, il était dans la barque avec... avec ses apôtres, et qu'il leur a demandé de jeter le filet pour avoir du poisson. Et au début, ils n'y croyaient pas trop, et c'est quand ils ont jeté le filet qu'après, ils ont eu du poisson. Là, ils ont dit, Seigneur, on est des pêcheurs. Du coup, enfin, par ce miracle-là, ils ont eu la crainte de Dieu, en fait. Du coup, ça a produit en eux la foi, après.
D'accord. Par rapport à cet exemple-là, non, je pense que comme Jonathan a dit, hein, Dieu fait comme il veut. Mais la Bible est claire. Hein, la Bible dit que c'est la foi vient de quoi ? De ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, il se peut que dans le cœur des disciples, il y avait déjà quelque chose et Dieu a permis ce miracle pour les conforter. C'est comme nous aussi. C'est comme nous. Donc, lorsqu'on voit des témoignages, moi personnellement, lorsque je vois ces témoignages-là, je me dis, si Dieu est capable de faire de telles choses, même guérir quelqu'un qui finalement, derrière, après on ne sait pas aujourd'hui, ne s'est pas converti, c'est un encouragement. Mais c'est pour nous dire qu'il faudrait qu'on fasse attention. Parfois, on veut charnellement que Dieu fasse des miracles, ou parfois même, on cherche à témoigner, comme je discutais avec certains bien-aimés, où il y a un message qui est passé sur WhatsApp, où on dit qu'une personne, je ne me rappelle même plus l'histoire, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais c'était une histoire un peu extraordinaire, quoi. Et je disais, oui, bon, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de ça pour annoncer aux gens le salut du Seigneur. Voilà. On n'a pas besoin. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Voilà, donc on peut être nous-mêmes en mauvaise position, mais parler du salut de Dieu. Maintenant, Dieu fait comme il veut. En réalité, les miracles pour nous, eh ben, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Mais comme Jonathan a dit, il y a des gens qui ont vu des miracles, qui ont dit à Dieu, Seigneur, tu fais ci, je fais ça, qui ont fait des vœux à Dieu, mais finalement, ce n'est pas pour autant qu'ils ont été touchés. On se rappelle la foule qui disait à Jésus, fais-nous un miracle, fais-nous un miracle, fais-nous. Jésus avait déjà fait plusieurs miracles. Il dit, non, je ne ferai plus de miracles. Maintenant, le seul miracle que je ferai, c'est le miracle de Jonas. Voilà, c'est cela. Et pour nous dire que les miracles ne produisent pas forcément la foi. Ça peut le faire, en tout cas, mais Dieu permettra, même si c'est le cas, il permettra qu'il y ait des situations. Septime a cité l'exemple de Pierre en disant, lorsque le Seigneur a dit d'aller jeter les filets, mais il y a eu un temps, dans Jean 6, verset 66 et plus bas, où le Seigneur a dit, il faut me manger. Donc il y a eu un temps où Pierre a dû confesser, non, c'est ta parole qui fait la différence. Et là, Pierre a dit au Seigneur, ah Seigneur, où est-ce que nous allons aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Même si ça arrive qu'une personne soit touchée par un miracle, soit épatée, entre guillemets, soit, voilà, mais viendra toujours un temps où Dieu va faire un travail corps à corps. Voilà. Les miracles, c'est comme l'exemple qu'on nous donne souvent, c'est l'extraordinaire, quoi. C'est l'extraordinaire, comme on voit les Américains en Irak qui bombardent, qui lancent des missiles, mais voilà, la guerre n'est pas encore gagnée. Pour que la guerre soit gagnée, il faut aller maintenant sur le terrain. Et Dieu va permettre cela. Il va envoyer des choses. Voilà, on peut être surpris, touché. Mais il y aura maintenant un combat en face. Et c'est dans ce combat en face-là qu'on dira, oui, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi. Ce n'est pas à cause du miracle, mais c'est à cause de... On se rappelle lorsque la femme samaritaine est allée appeler les gens pour dire, venez voir un homme qui est extraordinaire. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les hommes sont arrivés. Ils ont dit quoi à la femme, lecteur de la Bible? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Ah, lecteur de la Bible. Ah, voilà, c'est ça. Bon, lecteur de la Bible, c'est ça. Voilà, ils disent, maintenant nous croyons, non pas parce que toi tu nous as dit, mais parce que nous sommes venus, nous avons vu, nous avons entendu, c'est ça. Donc, Dieu peut faire des miracles, mais il va toujours, puisqu'il est fidèle, il permettra des situations pour vraiment que ce qu'il y a au fond de nous puisse sortir. C'est ça. Christian?
Oui, je voulais juste dire que, oui, le miracle ne produit pas forcément la foi, mais le témoignage du miracle produit la foi. C'est-à-dire...
Explique-toi parce que...
Le témoignage du miracle produit la foi. Jésus, la Bible dit dans Jean 20, 30, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais tout ce qui a été, ce qu'il a fait, tout ça a été prescrit pour que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu. Donc il y a des choses, par exemple, dans l'Évangile, on parle des miracles. Mais ce miracle-là, c'est pour nous, c'est pour produire en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que le miracle ne produit pas la foi, mais le témoignage du miracle produit la foi.
Ok, d'accord. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Oui, il y a une question ici, frère Denis. Il y a le frère Jean, le frère Denis.
Oui, j'explique.
Oui.
Le témoignage du miracle produit la foi.
C'est quoi le témoignage du miracle? Parce que c'est pas clair. Qu'est-ce que tu appelles témoignage du miracle?
Le témoignage qu'on donne que Dieu a accompli un miracle dans nos vies, par exemple. Cela peut produire ce que nous faisons, par exemple, on écoute le témoignage de quelqu'un qui a reçu un miracle dans sa vie. On prend l'exemple. Dans la Bible, il est consigné certains miracles. Il y a certains miracles dans la Bible qui sont pour nous des témoignages qui nous apportent la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Jean 20, 30, il est écrit... Jésus a fait beaucoup de miracles, mais si tout ce qu'il a fait, toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu. Donc la Bible nous apporte des témoignages, des miracles qui nous apportent la foi. C'est pourquoi je dis que le miracle forcément ne peut pas produire, ne produit pas la foi, mais Dieu peut utiliser le témoignage d'un miracle pour susciter la foi.
Ok, d'accord. Oui?
Oui, par rapport au miracle, je pense que ça dépend de l'état de cœur de la personne qui est témoin du miracle. Parce que Jésus, à un moment donné, s'adresse aux religieux qui ont le cœur dur et il leur dit « Non, vous ne verrez pas de miracle parce que vous voulez le miracle juste pour le miracle. » Et comme on en a parlé avec d'autres exemples, il y a d'autres exemples où effectivement ça a suscité la foi. Donc ça dépend de l'état de cœur de la personne qui est témoin du miracle.
Oui, ça dépend de l'état de cœur. Mais dans tous les cas, même qu'il y ait miracle ou pas, Dieu Il y aura toujours un affrontement personnel avec Dieu pour que ce qu'il y a au fond de nous puisse sortir, qu'on puisse exprimer la foi en Dieu. Ça, c'est sûr. Oui ?
Oui, je pense que le miracle aussi est destiné à attirer l'attention sur la parole. Dans Actes, je ne sais plus le verset exactement, il est dit que le Saint-Esprit confirmait la parole que les apôtres annonçaient par des signes et des miracles. Et Jésus lui-même, en l'ayant fait beaucoup, beaucoup de gens venaient à lui pour les miracles, mais du coup, il recevait aussi ses enseignements. Et cette phrase-là qui dit que le Saint-Esprit confirmait la parole, donc c'est vraiment parce qu'il prêchait la parole et donc le Saint-Esprit faisait des miracles pour montrer que lui, il est dans l'affaire et donc que cette parole est vraie. Et amener les gens au salut, je pense que c'est vraiment le plus important. Amen. Maintenant, par rapport à l'exemple que donnait Septime, que la pêche miraculeuse a produit la foi, moi je vois plutôt qu'elle a produit la repentance. Mais quelque part, Pierre, il a eu déjà un geste de foi avant, parce que quand Jésus lui a dit « jette le filet », il n'y avait pas de poisson, il n'y avait rien.
Sur ta parole.
Bon, peut-être qu'il était sceptique, mais il l'a fait quand même. Donc il a eu un minimum de foi, et donc le miracle s'est produit.
Oui, oui. En tout cas, comme la sœur Nathalie a dit, donc c'est Dieu connaît aussi l'état des cœurs. Dieu connaît l'état des cœurs. Oui, le frère Denis.
Oui, j'irai un peu dans le sens de la sœur Nathalie qui dit que Dieu connaît l'état de cœur. Et puis le problème, c'est pourquoi Jésus faisait-il des miracles? C'est à cette question-là peut-être qu'il faut aussi qu'on essaie de répondre. Parce que est-ce que le miracle produit la foi? Mais déjà, pourquoi Jésus faisait-il des miracles? Jésus aurait pu donner ses enseignements sans faire aucun miracle. Pourquoi faisait-il des miracles? Donc il y a un but. Le miracle, ce n'était pas pour épater les gens. Ce n'était pas pour amuser la galerie, mais il y avait un but. Chaque miracle de Dieu était fait en fonction de quelque chose. Donc, Dieu faisant un miracle, voulait manifester qu'il est Dieu, que le peuple voit qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu extraordinaire, et aussi parce qu'il est amour. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de miracles, de guérison. Dieu veut manifester son amour. Et dans cette manifestation, il laisse à l'homme le temps de voir qui est-il et de choisir de croire ou de ne pas croire. Maintenant, si quelqu'un est humble de cœur, il va voir le miracle, il va se dire, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un message qui est derrière et il va croire. C'est pour cela que le frère Christian a dit qu'il y a le langage du miracle. Pour moi, je vois que la Bible, c'est clair, le miracle elle produit la foi. Maintenant, ça dépend de l'état du cœur. Si le cœur est sincère, le miracle sera tout un langage, en fait, qui sera une sorte de parole de Dieu. Ça va amener la foi. Parce que quand je vois un seul exemple dans la Bible, quand Pierre amène Tabitha à la résurrection, Dorcas à la résurrection, dans la ville de Jopé, on dit beaucoup de gens crurent à partir de ce miracle-là. Parce qu'ils ont entendu parler de ce qui s'est passé de la résurrection et il y a eu ça a produit de la foi dans leur cœur, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres aussi, par leur... Ça passe.
Le son, il a changé.
Ok, parce que je ne m'entendais plus. Et la plupart du temps, les apôtres eux-mêmes, ils ont fait beaucoup, beaucoup de miracles et ça a amené la croissance de l'Église du 1er siècle, une croissance exponentielle parce que les gens voyaient ce que Dieu faisait. Donc moi, je pense que Dieu fait des miracles, il amène les gens à la foi. Maintenant, ça dépend de l'état de cœur. Tous ceux qui voient des miracles ne vont pas forcément croire, mais ceux qui sont sincères, ils vont croire au Seigneur Jésus.
Amen, amen. C'est une bonne conclusion. On va donc s'arrêter là parce que sinon, on va s'arrêter là. Donc, c'est tout simplement pour dire que le miracle, c'est comme le frère Denis a dit, et c'est le point que je voulais ajouter, ça manifeste l'amour de Dieu. Quoi. L'amour de Dieu, et surtout avec cet exemple, on voit que le frère lui-même, à ce moment, il n'était pas converti. La sœur elle-même, elle n'était pas convertie. Et Dieu, sachant même, peut-être qu'aujourd'hui, on est converti, on ne sait pas, mais à ce moment, Dieu savait même que derrière, peut-être qu'elle ne se convertirait pas. Mais Dieu a quand même fait cela. C'est pour nous dire que Dieu aime vraiment les hommes et lorsqu'il agit, il n'agit pas par calcul en disant « je veux faire ci et en retour je veux recevoir ». On se rappelle dans Romains 8 où Paul dit « à peine mourrait-on pour des hommes justes, mais Jésus a accepté de mourir pour des injustes ». C'est pour nous dire que donc il aurait valu la peine que Jésus meure si on était correct, mais il est mort parce qu'il aimait tout simplement les hommes, c'est ça. Après, derrière, à cause de cette mort, il y en a qui ont reconnu, qui ont dit « Jésus est Seigneur et Sauveur » et d'autres qui ont refusé. Le miracle, c'est vraiment un signe de l'amour de Dieu. Maintenant, c'est comment nous lisons les choses en fonction de ce qui se passe devant nous, comment nous interprétons les choses. C'est dans ce sens-là que les miracles est un témoignage, est un langage que Dieu utilise pour dire, regarde, si je suis capable de faire ça, alors je peux faire aussi plus que ça. On se rappelle lorsque Dieu faisait des miracles avec Moïse devant le Pharaon, ce n'était pas pour amuser, c'était pour montrer que je suis capable de faire des choses. Et même le peuple qui doute, montre au peuple que je suis capable de faire toutes ces choses-là. Et c'est ça. Et ça, dans cet exemple, ça nous montre vraiment l'amour de Dieu. Dieu, de même qu'il fait pleuvoir sur les bons, sur les mauvais, Dieu, il agit aussi comme il veut. Maintenant, c'est à nous de pouvoir lire et de grandir dans la foi dans le Seigneur en disant, ah, là, c'est le Seigneur qui a agi. Que son nom soit béni. Oui.
Aussi, on a pu voir que Dieu va nous fatiguer jusqu'au bout pour pouvoir nous récupérer.
Ah bon, tu as vu ça?
Oui, enfin, en fait, à chaque fois, par exemple, dans le premier témoignage, il était carrément dans l'alcool, dans les drogues. Et le deuxième, il était poussé car il y avait sa sœur à l'hôpital, il était vraiment en deuil. Et il les a fatigués pour proposer son appel, enfin, pour les récupérer.
Amen. Donc si on n'est pas encore fatigué, fatiguons-nous vite, vite, vite. Comme ça, le Seigneur va agir. Ok, que le Seigneur soit béni. Il y avait 4 témoignages de prévu. On a atteint l'heure, oui. Donc dernière intervention du frère Jean. On va s'arrêter là.
Non, mais comme tu as dit qu'on arrête sur le miracle, il fallait plus continuer. Donc okay. Il y a un passage que je voulais lire qui vient à peu près, confirmer cela. C'est Jean 2. 22 à 25. Bien, on prend 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Voilà, c'est ça. Ok, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. On a dit beaucoup de choses au travers de ces 2 témoignages. On a ressorti beaucoup de réalités de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à semer des bonnes choses auprès de notre entourage, de nos enfants. Qu'est-ce que nous semons? Est-ce que nous semons l'amour? Est-ce que nous semons la vie de prière? Est-ce que nous semons la paix? Est-ce que nous semons le respect que nous-mêmes? Est-ce que nous sommes exemplaires? Est-ce que lorsqu'on fait mal, on demande pardon aux enfants, on s'excuse? Parfois, on exige cela, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. Et les enfants, ils voient ça, ils nous observent. Et donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, un jour, vont suivre aussi les enfants. Prions pour que le Seigneur nous aide à avoir la haine du péché, du mal. On a vu que cet homme, il est tombé dans le piège du diable. Et la Bible dit dans Jean 10:10 que le diable, l'ennemi, le voleur, il vient avec un objectif clair, c'est égorger, tuer, détruire. C'est ça sa mission. Et il va utiliser plusieurs moyens subtils. On va prier aussi pour que le Seigneur nous aide à être transparent, comme David l'a dit dans le psaume 139, « Sonde-moi éternel », que nous ne puissions pas chercher à être une apparence, alors qu'en réalité, au fond, on souffre. Que nous puissions être vrais, que le Seigneur nous aide aussi dans la communion avec lui, comme on a dit. Si on est en bonne communion avec Dieu, eh ben forcément, on sera aussi en bonne communion. Et l'apôtre Jean le dit, comment on dit prétendre aimer Dieu qui est invisible, alors que l'homme qui est devant nous, on ne l'aime pas. C'est pour dire qu'il y a une relation en triangle, si on aime Dieu, eh ben, on va aimer aussi l'homme qui est en face de nous. Si on est en bonne relation avec Dieu, eh ben, on va être aussi en bonne relation avec celui qui est en face de nous. Ou alors, on fera tout pour être en bonne relation. S'il faut s'humilier, demander pardon, s'il faut prier, demander la prière, on va faire tout ce qu'il faut pour la réconciliation. Prions aussi pour que le Seigneur nous aide à accepter, selon le deuxième témoignage, d'être les instruments par lesquels il va passer pour toucher aussi les autres. Joseph a souffert, mais sa souffrance a été bénéfique pour le salut de non seulement de sa famille, mais de tout un peuple. Jésus-Christ, notre Maître, a accepté de mourir à la croix pour que nous nous soyons sauvés. Le Seigneur a permis que la sœur du bien-aimé souffre, mais cette souffrance-là a permis sa conversion à lui. Que le Seigneur nous aide vraiment à lire tout ça et à avoir foi en sa parole au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour tous les enseignements que nous avons retirés, Seigneur, de ces témoignages. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ta parole, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons semer les bonnes choses, Seigneur, autour de nous. Seigneur, parfois nous sommes dans une logique de vouloir être gagnant, Seigneur, tout de suite. Une logique égoïste, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de cela, Seigneur, au nom de Jésus. Que nous puissions s'aimer la paix, même si cela nous coûte la honte. Que nous puissions semer, Seigneur, l'amour autour de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être transparents devant toi, Seigneur. À ne pas chercher à paraître pour ce que nous ne sommes pas en réalité. Qui est l'homme, Seigneur, devant toi? Nous sommes si faibles, si petits. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Comme il est écrit dans Romains 15, verset 1er, que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Seigneur, lorsque nous sommes faibles, que nous puissions demander le soutien des bien-aimés. Viendra aussi un jour, un temps où nous serons aussi forts que nous allons aussi soutenir celui qui est faible. Nous prions pour que tu nous aides. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur, la nocivité du péché, Seigneur. Le péché est grave, Seigneur. Il peut paraître petit. Il peut être pour un petit instant. Mais finalement, on voit l'histoire de Michaël, Seigneur, qui finalement a eu une vie détruite. Totalement détruite, esclave des drogues, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides vraiment. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Nous faisons le choix de marcher selon toi. Merci de réaliser, Seigneur, que c'est toi qui es notre secours. Michaël a cherché l'aide auprès de sa mère, mais ce jour-là, la porte était fermée. Il s'est tourné vers toi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Il est écrit que les hommes dorment et sommeillent, mais toi, le gardien d'Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es toujours disponible, Seigneur, pour nous aider, Seigneur. Merci d'agir dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous aider à avoir une bonne relation avec toi. Lorsque, Seigneur, nos relations autour de nous ne sont pas bonnes, que nous soyons sincères pour nous examiner devant ta parole. Et bien souvent, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas en accord avec toi. Et cela se manifeste autour de nous. Nous prions pour que tu nous aides. Tu vois, Seigneur, l'irritabilité, la colère, les murmures. On ne laisse pas passer une faute chez l'autre. On est trop exigeant, Seigneur. La faute, c'est toujours les autres. En réalité, Seigneur, c'est nous-mêmes qui avons peut-être un problème d'orgueil. Seigneur, nous prions pour que tu nous libères de cela. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que toutes les situations que tu permets dans nos vies nous amènent à avoir une vraie relation avec toi. Nous voyons l'exemple de ce frère, Seigneur, dans le deuxième témoignage, qui mimait ce que faisaient les autres, Seigneur, en les imitant, en allant à l'église, en priant parce que les autres priaient. Mais devant cette situation de sa sœur, il t'a ouvert son cœur, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que les événements, Seigneur, qui sont autour de nous, les épreuves dans lesquelles nous sommes, puissent faire leur travail, comme il est écrit dans Jacques. Aide-nous, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Merci pour la foi en ta parole. Merci pour la foi. En ta parole, tu as dit à cet homme, « Je garderai ta sœur. » Comme il a été dit par notre sœur, il s'est accroché à cette promesse. Mais combien de promesses n'avons-nous pas, Seigneur, dans la Bible ? Combien de promesses ? Lui n'a eu qu'une seule promesse. Mais nous avons toutes les promesses, Seigneur, qui sont écrites. Comme le bien-aimé a dit dans Jean 20, 30, il est écrit que tu as fait tellement de miracles qu'on ne peut pas tout mettre, mais tout ce qui a été écrit pour que nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, que toutes ces promesses, Seigneur, nous reviennent, Seigneur, dans notre cœur. Que ton esprit nous rappelle les promesses lorsque nous sommes abattus. Que ton esprit nous rappelle que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui as marché sur l'eau, tu peux marcher sur nos problèmes, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que dans les difficultés, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous avons la prière comme notre arme, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait en ce jour. Au nom de Jésus. Amen.